Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 17 décembre et c'est Marine au micro de Cinérama. Je suis en compagnie de Manu, bonjour Manu.
Bonjour Marine.
Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
Des histoires de vampires, alors notamment pour le conte de la Hammer, hein, dans mon cycle consacré à cette firme, avec The Vampire Lovers, et d'un film de vampires mexicain également, qui s'appelle Les Proies du Vampire.
Très bien, donc une ambiance particulièrement Noël hein, pour cette édition de Cinérama. Alors Vincent n'est pas avec nous physiquement dans les studios aujourd'hui, mais il nous a laissé deux interviews sous le sapin. Nous allons pouvoir écouter le réalisateur Éric Lartigot et la comédienne Louane Emra qui vont nous parler du film La Famille Bélier qui sort aujourd'hui partout en France, ainsi qu'une interview du réalisateur Jaime Rosales pour son film La Belle Jeunesse. Quant à moi, eh bien, je vous dirai pourquoi il ne faut pas aller voir Men, Women, Children de Jason Reitman, un film choral qui nous parle de nos rapports aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux. Mais pour le moment, on commence avec ta chronique sur la Hammer, Manu, c'est Cinérama.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Ah oui, comme Vincent n'est pas là, on commence par, non pas une sortie en salle, mais directement par la Hammer.
On se permet tout.
Voilà, comme ça, je suis sûr d'en parler au moins. Alors, je vous parlais de The Vampire Lovers. Alors, Roy Ward Baker, hein, le réalisateur, hein, demeure incontestablement hein, l'un des meilleurs artisans du cinéma de genre britannique. Son nom au générique d'un film de la Hammer est d'emblée un gage de qualité. Aux côtés de Terence Fisher, Val Guest et John Gilling, il reste l'un des plus illustres représentants de la firme créée par Enrique Carreras. Alors, Baker a souvent insufflé une folie, une démesure baroque, une violence graphique faisant parfois défaut à d'autres productions plus rigides de la Hammer. Alors, personne n'oubliera, j'en ai parlé la semaine dernière, des Monstres de l'espace, délirant épisode des aventures du Dr. Quatermass, ou encore l'ambigu Dr. Jekyll et Sister Hyde, qui, mine de rien, distillait une pertinente réflexion sur l'identité sexuelle. J'en parlerai peut-être la prochaine fois, d'ailleurs. Alors, dans les années 70, la Hammer connaît par ailleurs une grave crise financière et artistique. Le cinéma d'horreur évolue. Les attentes des spectateurs ne sont plus les mêmes. Le gros succès de La Nuit des Morts Vivants change la donne. Le cinéma gothique semble dépassé. Alors l'horreur prend racine dans un contexte contemporain, creusant un sillon par allégorie et métaphore dans une idéologie sociale et politique. Alors dans ce contexte, les productions Hammer des années 70 vont tenter, souvent en vain, de moderniser leur vision un brin désuète du fantastique, plus suggestif que graphique et surtout plus conservatrice que progressiste. Mais la sauce ne marche pas toujours, à quelques exceptions près, The Vampire Lovers compte parmi les dernières grandes réussites de la Hammer.
Come with us if you dare, into a twilight world of unspeakable horror.
You must die. Everybody must die.
Sample, if you dare, the deadly passion of the vampire lovers. Creatures of the night find their victims everywhere. The unsuspecting merrymakers in glittering ballrooms with their young and tender throats. The sleeping beauties whose troubled dreams turn into real terrifying nightmares.
For God's sake, save her!
Les vieilles bandes annonces ont quand même un charme indiscutable que ne possèdent pas
que nous avons perdu depuis.
Alors porté par un script rigoureux et captivant, hein, d'après une nouvelle ou plutôt un court roman de Sheridan Le Fanu, Camilla, The Vampire Lovers est un vénéneux film de vampires troublant et envoûtant. Alors dès le prologue, Baker installe une ambiance gothique du plus bel effet. Une forme enveloppée dans un drap s'extirpe d'une tombe sous le regard effrayé d'un châtelain qui immerge le spectateur dans une atmosphère sensuelle et hypnotique. Alors s'ensuit une décapitation réussie qui nous rappelle que nous sommes bien dans un film d'horreur plus agressif et transgressif que les anciens films de la Hammer. Alors Roy Ward Baker jongle entre classicisme et modernisme, hein, bouscule les codes du genre tout en inscrivant son récit dans une forme conventionnelle mais élégante. Il dresse le portrait audacieux d'une vampire qui séduit ses victimes au sens littéral du terme. L'érotisme saphique, dans un contexte aussi puritain que la période victorienne, révèle l'audace qui anime les auteurs de ce film ambigu et charnel. Le personnage de Carmilla n'est pas l'incarnation du mal, mais une sorte de morte vivante qui porterait le poids d'une malédiction. Alors plusieurs séquences semblent nous orienter vers l'hypothèse qu'elle souffre, qu'elle est elle-même manipulée par le comte Karnstein, que l'on aperçoit brièvement. En dépit de ce qu'il prétend dans une vieille interview à Mad Movies, Roy Ward Baker semble très à l'aise avec les séquences érotiques, fortement aidé, il est vrai, par la plastique divine de ses comédiennes, à commencer par la hongroise Ingrid Pitt, de son vrai nom Ingushka Petrov. Bon, Ingrid Pitt, c'est plus
donc,
simple.
Aucun rapport avec Brad.
Non, aucun rapport avec Brad Pitt. Voilà, c'est... Je l'ai signalé parce qu'effectivement, on me l'a demandé plusieurs fois. Alors, elle possède un regard mélancolique et envoûtant, des yeux magnifiques et hypnotiques, hein, dans ses tenues vestimentaires volontairement clinquantes. Elle est le centre attractif du film. Alors, par contre, sa voix grave et suave, un peu comme toi,
Mais oui, tout à fait.
En dépit d'un anglais approximatif, elle est faite d'une charmeuse de serpent. Voilà, alors ni complaisant ni graveleux, hein, la nudité naturelle des actrices est un régal pour les yeux. Elle est même un élément phare de la progression dramatique et non un simple artefact décoratif. Alors bizarrement, cet excellent film, hein, ce qui est du beau travail d'orfèvre, ne connut pas de sortie en salle, ce qui est assez étonnant, en France hein, du moins. Alors que d'autres films plus mineurs, notamment le film a engendré deux suites, on en connut. Donc ça c'est assez étrange parce que c'est un des meilleurs films de la Hammer et n'a jamais été distribué. Il existe bien. En DVD par contre. Hein.
Ah.
Il est facilement procurable.
Eh bien voilà une bonne idée de cadeau à faire à votre belle-mère. Hein, voilà, par exemple, si vous êtes en train de chercher vos cadeaux de Noël peut-être aujourd'hui. Merci Manu. Nous allons à présent passer eh bien, à Men, Women and Children. C'est Cinérama.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique. Invité et nouvelle du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire ?
Men, Women, Children s'ouvre avec une voix off qui commente les agissements des êtres humains depuis l'espace. Elle nous observe et nous voit les yeux rivés sur nos smartphones, tablettes et ordinateurs, bref, esclaves des nouvelles technologies comme nous le sommes depuis une dizaine d'années. Alors pour illustrer ces addictions et les incompréhensions intergénérationnelles qu'elles génèrent, nous suivons différents ados dans une petite ville américaine ainsi que leurs parents. Si les lycéens ont totalement intégré Internet à leur vie, leurs géniteurs ont un temps de retard et ne savent pas vraiment comment gérer ce monde qui leur échappe un peu. Alors, tous les dangers du net hein, sont ici bien représentés un peu trop, au point que l'on croirait un film éducatif anxiogène à destination des parents. La pornographie qui prive les garçons de tout désir réel, les sites pro-anorexiques sur lesquels les jeunes filles se motivent à ne pas manger, les jeux en ligne qui coupent des relations sociales, les photos de mineurs livrées en pâture aux pédophiles et les sites de rencontres adultères, rien que ça. Vaste programme, que d'établir une cartographie du net à travers cette liste quasi exhaustive des dangers qu'il propose. Encore faudrait-il apporter nuance et subtilité aux propos pour le rendre convaincant. Parce que finalement, les personnages censés donner vie à tous ces problèmes du 21e siècle sont tellement archétypaux qu'on n'a pas la moindre envie de s'intéresser à leur sort. Et en plus, bah, on a la désagréable impression de les avoir tous déjà vus au moins 100 fois dans des films américains auparavant. Alors, il y a les joueurs de football américains, la pom-pom girl qui rêve de célébrité, la jeune geek qui découvre l'amour, les parents trop protecteurs ou trop permissifs. On s'enlise dans les clichés et ce manque de surprise rend l'ensemble plutôt ennuyeux, voire agaçant. D'autant que bah, tout cela est porté par un casting assez mainstream. On retrouve Jennifer Garner, Adam Sandler et Ansel Elgort. Alors peut-être que son ne vous dit rien, mais depuis un an, il est à l'affiche de toutes les grosses productions hollywoodiennes pour ados comme Divergente ou Nos étoiles contraires. Et puis, bah, en réalité, sous ses airs de vouloir faire des comédies dans l'air du temps, le réalisateur Jason Reitman, qui s'est fait connaître avec Juno, semble quand même être un gros réac. Juno, qui certes a eu le mérite de révéler Ellen Page et Michael Cera au grand public, était quand même derrière ses aspects satiriques une farce assez moralisatrice, anti-IVG. Et Men, Women, Children, en adoptant un ton très alarmiste, en sens vraiment le modèle de la famille américaine bien rangée. La réalisation, bah, justement, est très très américaine au sens sensationnaliste du terme, pour ne pas dire lourde. Et le propos du film est aussi sectaire finalement que son titre, qui compartimente comme ça la société en trois catégories, un peu comme si les hommes, les femmes et les enfants appartenaient à chacun à une caste qui paramétrait leur comportement, Bon, niveau progressiste, on a quand même déjà vu mieux. On aurait préféré que le film se contente de donner à réfléchir au lieu de conclure de façon si radicale, que ce soit un film générationnel plutôt qu'un teen movie, et surtout qu'il évite les discours pompeux autour de la physique quantique, parce que ça, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc bon, espérons que Jason Reitman fasse mieux la prochaine fois. On va maintenant repasser au cinéma français avec une interview réalisée par Vincent Pourageau. Celle pour la famille Bélier du réalisateur Éric Lartigot et de sa comédienne Louane Emra. Tout de suite, on les écoute. C'est toujours Cinérama.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va garder ça.
Noël est le temps des comédies et des dessins animés et la famille Bélier pourrait rester un peu plus longtemps que les fêtes à squatter les salles. Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd, sauf Paula, qui a 16 ans et toujours pas pubère, qui va devoir quitter l'adolescence et sa famille. Pourquoi ? Parce que son prof de musique détecte chez la jeune fille un don pour le chant et que ce don va s'exercer sur Michel Sardou. Dès quel âge ? On va se poiler. On n'apprend pas grand-chose sur les sourds dans cette mise en scène d'Éric Lartigot à qui l'on doit L'homme qui voulait vivre sa vie ou Prête-moi ta main. Ça n'est pas The Tribe, sorti en septembre, parce que c'est un film sur la famille et l'adolescence avec des sourds avant d'être un film sur les sourds. Et surtout, c'est un film sur une chanteuse, Louane Loumera, que la production a sauvée de The Voice. Au-delà des compositions de François Damien et Karine Viard, les parents muets, le personnage le plus savoureux et le plus bavard, le prof de chant, interprété par Eric Elmosnino. L'utilisation de Sardou est une réussite. Pour le reste, quelques incohérences, quelques maladresses scénaristiques, quelques clichés sur la politique, sur la paysannerie, sur la province et quelques lourdeurs de mise en scène, notamment la scène finale qui laisse sans voix. On écoute Éric Lartigot et Louane Loumera parler de la famille Bélier.
Arrête de klaxonner à chaque fois, papa, on dirait un mongolien. Moi aussi, je suis contente de te voir, mais on n'est pas obligé de partager notre bonheur avec tout le monde.
C'est pas un projet personnel, c'est un projet initié par Victoria Bedos, qui elle-même, en fait, s'est inspirée de la vie de l'assistante de son père, Guy Bedos. Donc cette assistante était dans ce même cas que Paula, c'est-à-dire entendante dans une famille de sourds.
Une coda,
ce qu'on appelle une coda, c'est ODA. Voilà, elle est partie de cette ligne dramatique, on va dire. Et puis après, elle prenait des cours de chant, Victoria, et elle a mêlé les deux, en fait. Elle s'est dit, je vais mélanger la musique avec cette famille. J'écrivais moi aussi un film sur la famille. Et en fait, j'ai tout lâché pour ce projet. C'est-à-dire que c'est un film sur la famille et sur la séparation, de comment l'émancipation de cette jeune fille qui veut essayer, tenter de vivre sa vie, avec ce don pour la musique, pour le chant qui lui est découvert. Et tous ces reliefs de comportement, de famille, de contradictions, de paradoxes, de peurs sur le thème du départ.
Mes chers parents, je pars.
Ça m'excuse pas tout d'être sourd. Je vous déteste.
Mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants.
T'es pas une mauvaise mère, au contraire. T'es la mère dont tout le monde rêve.
Moi, je me suis régalé avec Louane, déjà en découvrant sa voix dans The Voice. C'est là où je l'ai découvert. On parlait de rythme tout à l'heure dans la comédie. Il y a aussi, c'est très chorégraphique en fait, la langue des signes. Il y a une sorte de chorégraphie avec les signes, les corps, la manière de se déplacer dans l'espace. Et du coup, c'est très mêlé aussi à la musique, curieusement. C'est le seul, encore un paradoxe supplémentaire, c'est le seul dont ils n'ont pas accès, ses parents. Leur fille, elle aurait pu être peintre, ça aurait été plus pratique. Ils auraient pu partager ce don, et non. Malheureusement, ça peut être vécu même par moment comme une trahison supplémentaire. C'est-à-dire que non seulement elle veut quitter le nid, mais en plus, elle a un don dont on n'a pas accès, quoi. Et c'est terrible pour des parents de ne pas être en relation avec ce qu'aime votre enfant.
Je vais prendre deux tomes. Et qu'est-ce qu'elle a, la dame ?
Ça s'appelle la division du travail. Elle sourit et je parle.
Amusant.
Bah, une famille.
Michel Sardou intervient à la genèse. C'était, en fait, elle a tourné autour de cette chanson « Je vole ». Et mes chers parents, je pars. Et voilà, c'est parti de ça. Et du coup, on a même cherché, nous, d'autres chanteurs potentiels, populaires, très populaires, parce qu'on ne savait pas s'il allait accepter ou non le scénario. Et on trouvait pas, en fait, on trouvait pas de musique, de chansons qui se calquent aussi bien à l'histoire.
Je viens d'apprendre que j'en reprends pour 2 ans faire chanter une chorale d'escalopes panées.
C'est un personnage qui à la fois transporte une espèce de tristesse. Et on est un peu embêté pour lui au début parce qu'on se dit voilà, et pourquoi est-il si méchant quoi? C'est pas gentil d'être aussi méchant. Et en fait, il les aime, ses élèves. Il veut les porter, mais il le fait à sa manière. Il a un vrai beau regard en plus sur eux, sur Paula et Gabriel. Et essentiellement, Paula, après, qui va suivre jusqu'au bout, il est d'une générosité extrême. Et voilà, il vient un peu par procuration ce qui se passe avec Paula. Et c'est joli, parce qu'il le fait de manière sincère et honnête. Puis en plus, El Mosnino, au travail, c'est un régal, c'est-à-dire que c'est une Ferrari.
On va s'attaquer à un monument. Parce que quand tout va mal, il n'y a plus aucun espoir, il reste Michel Sardou.
On peut peut-être essayer un truc plus moderne.
Michel Sardou est à la variété française ce que Mozart est à la musique classique. Intemporel.
Ça n'est pas un documentaire sur les sourds. On demande aussi pourquoi vous n'avez pas pris des acteurs sourds. La fonction première du film, en tout cas son sujet premier, c'est l'adolescence, c'est cette jeune fille. C'est le point de vue de cette jeune fille.
Je veux sentir la luxure, le stupre.
Ça vous est jamais arrivé de boutonner ou...
T'arrêtes un peu avec ton parigot.
Regarde-toi, on dirait Bella dans Twilight.
Oh, ça va.
Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris?
C'est l'école qui est à Paris. Sur le film, j'ai été confrontée à 3 acteurs, 3 gros monstres, 3 personnes qui jouent d'une façon juste incroyable chacun, quoi. Sur le coup, j'ai eu vachement peur. J'ai eu vraiment... en même temps, c'est normal quand on a 16 ans d'avoir peur de grands acteurs comme ça, je pense. Mais ils m'ont tous vachement aidée, ils ont tous été super sympas avec moi. Et finalement, ça s'est super bien passé.
Je ne m'enfuis pas. Je vole, comprenez bien, je vole, sans fumée, sans alcool, je vole.
Voilà, après le film Chorale de Jason Reitman, le film avec une chorale de Éric Lartigot, La famille Bélier. Donc ça sort aujourd'hui partout en France, un petit film familial à aller voir pour les fêtes. Mais nous, on va revenir à nos vampires, Manu.
Et oui, et pourquoi revient-on aux vampires? Je reviens donc avec un film mexicain.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie. Hein.
Alors c'est parce qu'en fait, je reviens avec un film mexicain parce qu'il y a un rapport avec le cinéma de la Hammer, mais vous le découvrirez plus tard dans ma chronique. Alors je vais vous parler de El Vampiro, les proies du vampire. Alors le synopsis est assez simple, hein, assez simpliste même. Martha, une jeune femme, revient après des années d'absence dans l'hacienda familiale de la Sierra Negra à la demande de sa tante Maria pour une raison bien spéciale. Celle-ci craint que la demeure ne soit hantée par des vampires. À peine débarquée, elle rencontre le docteur Enrique qui l'accompagne jusqu'à l'hacienda. Elle apprend par son autre tante, bon, il y en a plusieurs, Eloïsa, que Maria est mystérieusement décédée. Elle a été enterrée la veille. Eloïsa essaie de convaincre Martha de vendre la demeure à un dénommé Duval, en réalité un vampire assoiffé de sang. Alors, premier titre d'une collection sortie il y a quelques années dédiée au cinéma d'épouvante mexicain, El Vampiro est un marqué d'une pierre blanche ou d'une gousse d'ail dans l'histoire pléthorique des célèbres suceurs de sang. Il anticipe en fait d'un an la petite révolution qui aura lieu au sein de la Hammer avec la sortie du magnifique cauchemar de Dracula. En incarnant avec le talent qu'on lui connaît le célèbre comte de Transylvanie, Christopher Lee s'est en fait inspiré de l'interprétation racée de Germán Robles. Sorti sur les écrans français en 1958, Les Proies du Vampire n'est pas, loin de là, le navet exotique tant redouté que l'on défendrait juste par circonstance, prétextant le charme kitsch d'une production horrifique olé olé. Il s'agit d'une excellente série B aux réminiscences gothiques qui n'a rien à envier aux classiques signés Fischer ou Mario Bava. Ce trésor caché d'Amérique centrale multiplie les qualités foudroyantes, hein, interprétation crédible, maîtrise technique imparable mettant en exergue des cadrages sophistiqués et une photo noir et blanc de toute beauté. Clarté aussi d'un récit simple mais efficace. L'ensemble est juste un peu terni, pas un rythme un peu languissant. Mais écoutons un petit extrait, hein, plein de naïveté et de charme, et en version française, bien sûr.
Cependant, nous devrions nous réjouir de sa mort.
Pourquoi, tante?
Tu ne sais pas ce qu'elle a souffert, la pauvre, surtout au cours des derniers mois. N'est-ce pas, Emilio?
Oui. En vérité, seule la mort a pu la délivrer de ces angoisses terribles qui l'étreignaient.
Elle est morte de quoi?
Elle est morte d'une crise cardiaque. Mais au cours des 5 dernières années, elle était, comment dire, elle déraisonnait.
Elle était folle?
Oui. Une maniaque de la persécution.
De quoi avait-elle peur?
Des vampires.
Des vampires?
Oui. Des idées que les gens de nos villages voisins lui avaient mises en tête. Ils sont extrêmement superstitieux.
Oui. Elle était persuadée que dans les recoins de cette maison se cachait un vampire qui la guettait sans cesse pour lui sucer le sang. Quand le soir tombait, sa peur augmentait de plus en plus. Elle s'enfermait alors dans sa chambre et refusait d'en sortir. Elle s'entourait de tous les crucifix et de tous les miroirs qu'elle trouvait à sa portée.
Et pourquoi faisait-elle ça?
Ce sont des sottises, des légendes.
Oui, on raconte que les vampires fuient quand ils aperçoivent un crucifix et que même lorsqu'ils sont présents dans une pièce, on ne les voit pas dans un miroir.
Oui, j'ai déjà entendu ça. On dit que leur image ne se reflète pas dans une glace.
Oui, oui, c'est ce qu'on raconte.
Un peu de repos lui fera du bien. Le voyage a dû la fatiguer et elle n'est pas en état d'entendre de pareilles histoires.
Oui, je vais aller dormir.
Vous permettez?
Je vous en prie.
Alors sur le papier, les proies du vampire n'ont rien de transcendant et se situent dans le sillon des productions de la Universal des années 30. Les clichés ont même la dent dure. Pieux, gousses d'ail, chauve-souris, cercueil, crucifix forment les ingrédients de choix de ce petit théâtre de l'horreur. Alors le spectateur du 21e siècle, habitué à des récits alambiqués, risque d'être gêné par un script terriblement naïf, plombé hélas par une explication quasi pédagogique du mythe et des révélations limites grotesques. Alors lorsque le médecin, dans un éclair de lucidité, fait la relation entre Duval et Lavude, bon, on ne peut s'empêcher de sourire devant tant d'incrédulité. Mais quelques digressions salutaires détournent le film de ses conventions. Hein. La bisexualité latente du comte Duval, plus explicite que suggérée, se double même d'une allusion à la pédérastie lorsqu'il choisit pour proie un enfant lors d'une scène assez brutale pour l'époque. Alors dans une contrée imprégnée de catholicisme, il n'en faut pas plus pour soulever l'indignation des censeurs. Pourtant, plus que le caractère sexuel du vampire peut développer en fin de compte, c'est son appât du gain qui étonne. Rien de noble et de romantique dans sa quête. Ce qu'il veut, c'est posséder la propriété de l'hacienda afin d'étendre son pouvoir. Peu présent dans les productions européennes, ce sous-texte social n'a rien d'étonnant pour une œuvre mexicaine. Alors ce qui élève aussi les proies du vampire largement au-dessus des séries Z des années 50 tient à sa dimension plastique. Artisan plutôt doué ayant travaillé à Hollywood pendant de nombreuses années, Fernando Méndez tire le film vers le haut par un souci esthétique constant. La composition des plans qui se réfère à l'expressionnisme allemand, mais aussi à la peinture religieuse espagnole, est un régal pour les yeux. Conscient des limites du cadre 1.33, Méndez et son chef-op élaborent une série de cadres à l'intérieur du cadre. Les éléments de décor que sont les abris et la végétation permettent aux auteurs d'incruster des plans picturaux aux contours subtilement dessinés. Alors la brume reste toujours cet élément esthétique imparable, hein, cache-misère, masquant la pauvreté des décors, mais intensifiant fortement les ambiances gothiques. La séquence de l'enterrement qui aligne généreusement une suite de plans sublimes suffirait à elle seule à justifier la valeur du film et de se plonger dans ce qui fut l'âge d'or du cinéma d'horreur mexicain entre 55 et 65 à peu près.
Merci Manu. Eh bien, nous allons quitter les vampires, le sang, la mort, passer à l'amour et la jeunesse avec donc la seconde interview réalisée aujourd'hui par Vincent, interview de Jaime Rosales pour son film La belle jeunesse. C'est toujours Cinérama.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Natalia et Carlos sont deux jeunes amoureux de 20 ans qui se battent pour survivre dans l'Espagne d'aujourd'hui. Remise de CV, petit boulot, tournage d'un porno amateur, ils essaient de s'en sortir au jour le jour. Face à une crise qui n'en finit plus, les espoirs d'une vie meilleure se fragilisent. Et quand Natalia se découvre enceinte, il faut trouver d'autres solutions. Un court entretien avec Jaime Rosales qui a préparé sa fiction en se documentant sur la jeunesse d'aujourd'hui.
Moi, ce que je voulais, c'est faire un portrait des jeunes espagnols. J'ai commencé à la fin 2013-2014. Mon approche, c'était de les rencontrer, de connaître leur façon de vivre, d'être en relation les uns avec les autres et les incorporer dans les propos et dans la réalisation du film, de façon à que ce ne soit pas uniquement le regard d'un adulte de presque 45 ans sur des jeunes de 20 ans.
Natalia, ¿Qué haces todavía en la cama?
Vous dites que vous avez rencontré la jeunesse, mais là, alors on voit, on pourrait dire des jeunes, mais on voit surtout un couple. Pourquoi avoir choisi simplement un couple et ne pas avoir multiplié un peu les points de vue?
L'histoire d'un couple, c'est tout de même assez important parce que c'est quelque part, c'est l'histoire d'une famille ou d'une famille impossible. Parce que normalement, il devrait pouvoir... de jeunes amoureux qui ont un enfant, ils peuvent avoir une famille. Donc, un des problèmes de l'époque actuelle, c'est que le fait que les jeunes n'ont pas une profession, non seulement un travail, mais une profession, ils ne peuvent pas avoir non plus une famille. Parce que l'un, généralement, va avec l'autre. Avoir une famille, c'est finalement un petit peu le but de l'humanité. Si on n'a pas une famille, on ne peut pas continuer le projet humain.
Quand je serai riche, je vais acheter une casita à la playa.
J'aimerais bien parler des corps dans votre film, parce qu'elle, elle est enceinte. Quand il est question de sensualité, il la donne devant une caméra, mais pour de l'argent. Et là, quand on regarde l'affiche, on voit effectivement un couple qui a l'air de s'aimer, mais vous avez un peu mis de côté, j'ai l'impression, la sensualité dans ce couple.
Oui, c'est vrai. En tant que réalisateur, j'ai des difficultés à montrer ça. C'est-à-dire, c'est des difficultés, on va dire, techniques, esthétiques. Après, le fait de montrer la partie sexuelle de cette façon, ça correspond à une idée que je sens, qui a à voir avec la technologie aussi. J'ai l'impression que la technologie, c'est l'opium du peuple de nos jours, et très particulièrement pour les jeunes. Donc, ils montrent leur corps d'une façon pour de l'argent, et en plus par peu d'argent. Et c'est pas très grave non plus. Il y a des centaines, des milliers de vidéos pornographiques, amateurs, non amateurs, enfin des milliers.
Joder, Natalia, no has podido tener cuidado. ¿Qué piensas hacer? Tú no tienes trabajo, yo no tengo dinero.
La belle jeunesse, ce titre résonne comme une ironie, comme un paradis perdu ou comme un fantasme. Les images de Reim Rosales sont empruntées au réalisme. Alors nous sommes dans les intérieurs des maisons, dehors en ville, sur les chantiers, dans le métro. On voit l'insécurité, le chômage, la débrouille, la grisaille. Alors si on en restait là, la belle jeunesse serait un peu déprimant. C'est un peu le cas, hein. Mais le réalisateur innove dans une mise en scène qui ne reste pas si sage. Il explore les moyens de communication de cette jeunesse via les smartphones qu'on voit en plein écran. Multiplicité des sujets, on voit différents personnages ou des objets, on voit des SMS, des vidéos et des photos. On est alors plongé dans un univers virtuel qui semble anéantir l'action. Cette séquence qui fait à peine 5 minutes résume plus de 6 mois de la vie de ces jeunes adultes et ça résonne comme un vertige, un de plus dans l'implacable quotidien de ces personnages portés par de beaux acteurs.
Voilà, c'était l'interview de Jaime Rosales par Vincent Pourageau et donc son film La Belle Jeunesse qui est déjà sorti est encore visible en salle un peu partout en France.
C'est l'or, il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon moi je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Voilà, c'était Cinérama. Et bien Manu, on se retrouve à la rentrée.
Oui, bien sûr.
Joyeux Noël à
Joyeux
tous.
Noël.
Bonne fête et allez au cinéma.
Cinérama. Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.